Voilà, donc nous passons tout de suite à la table ronde animée par Caroline Eliashev et Catherine Vanier, la deuxième génération, et j'appelle donc avec elle Georgi Katsarov, Monica De Paula Peruzzi et Sarah Stern. On va attendre. Non, alors voilà, très bien, parce que ça s'est remis en route. Sans plus attendre, donc je passe la parole à Caroline ou à Catherine. À Catherine. Voilà, Catherine Vanier.
Alors, juste un mot, en effet, un mot seulement, parce que Caroline et moi-même avons décidé de ne pas vous parler aujourd'hui de ce que Françoise Dolto nous avait transmis. C'est vrai que plusieurs fois, souvent, vous nous avez entendu vous raconter ce qu'on avait appris de Françoise, vous raconter ce qu'on avait essayé chacune à notre manière d'en faire, dans notre travail, dans notre pratique. Mais vous avez vu ce matin à quel point c'était important et combien on parle de cette question de la transmission, évidemment, avec les années qui passent. Comment est-ce que ça va se transmettre, ce que Françoise Dolto nous a enseigné? Alors, plutôt que de vous parler de ce qu'elle nous avait enseigné à nous, qui l'avons connue, qui avons été proches d'elle, avec qui on pouvait parler, travailler, on a voulu demander aux jeunes psychanalystes, à la nouvelle génération, à ceux qui sont notre avenir, finalement, dans les années qui viennent et qui, eux aussi, un jour, auront à transmettre. On a voulu leur demander comment ils avaient rencontré Françoise Dolto, eux, par les écrits, par la pensée. Qu'est-ce qui a été transmis? Est-ce que nous, on a échoué ou réussi à leur transmettre quelque chose de ce que Françoise nous avait appris? Et ce que Françoise nous a appris, je repensais à ce qu'a dit Jean-Pierre Winter ce matin, c'est vrai que les recettes, les choses toutes faites, c'est vraiment les ratés de la transmission. Ce que Françoise nous a appris, c'est beaucoup plus un état d'esprit, une façon de considérer les enfants, une façon d'être, une façon de s'interroger dans le travail et de se laisser enseigner par eux, une façon de ne pas être dogmatique. Enfin, voilà plein de choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et on s'est dit, on va essayer d'apprendre maintenant des jeunes ce qui se passe dans cette transmission. Est-ce que nous, on a pu peut-être réussir, ou pas réussir d'ailleurs, à faire passer. Alors, on a demandé à Sarah Stern, à Monica Peruzzi, à Georgi Katsarov, de venir travailler avec nous. Et on leur a proposé des thèmes. On leur a proposé de parler des mamans, des enfants et des femmes. Alors voilà, je leur passe la parole et puis on essaiera de reprendre ensemble et de rediscuter de cette question de la transmission. Alors tout d'abord, Monica va nous parler des mamans, cette mère-là. Hein, tu as appelé. Alors Monica, elle, vous voyez, tous les trois, c'est des gens très bien. Je veux dire par là qu'ils avaient des formations très bien. Monica, elle est psychologue clinicienne. Elle a même fait un doctorat de psychologie et de psychanalyse. Elle a eu pour sa thèse le premier prix scientifique de la Fondation pour l'enfance. Bon, jusque-là, ça allait. Sarah, pareil, médecin formidable, psychiatre, pédopsychiatre. Georgi, docteur en lettres, S-lettres, et après des études de psycho. Enfin, vous voyez, ils étaient à la faculté, tout allait bien. Et puis, allez savoir comment la vie tourne, ils se sont intéressés à la psychanalyse et ont commencé une formation longue et compliquée de psychanalyste. Aujourd'hui, tous les trois commencent à recevoir comme analystes. Alors, Monica, on te passe la parole en premier ? Ah oui, juste vous dire que Sarah et Monica travaillent dans les hôpitaux de Saint-Denis, dans une unité qui s'appelle l'unité de psychopathologie périnatale, l'hôpital de La Fontaine, où on travaille ensemble, là-bas. Moi, je suis là-bas depuis 20 ans. Et Georgi travaille à Issy-les-Moulineaux, tu travailles ?
C'était un passage aussi.
Ah, c'était un passage ici, avec Caroline Eliachef.
Oui, je travaille à l'IRAEC.
À l'IRAEC.
Ou l'inverse, écrit dans.
Bon, Monica.
Je voudrais tout d'abord remercier énormément l'invitation de Caroline Eliachef et Catherine Matelin pour témoigner aujourd'hui sur mon expérience et les apports de Dolto dans ma clinique quotidienne. Ma première rencontre avec l'œuvre de Dolto date du début de mon cursus universitaire au Brésil, où j'ai suivi ma formation de psychologue clinicienne. Il faut peut-être préciser que la psychanalyse a une très grande présence dans l'enseignement universitaire brésilien. J'ai eu donc la possibilité de connaître l'œuvre de Dolto ainsi que d'autres auteurs français contemporains. Ceci est peut-être dû au fait que je fais partie d'une génération qui reçoit déjà l'héritage intellectuel des professeurs qui sont venus faire leur doctorat ou post-doctorat en France et que de ces faits sont dans la transmission des enseignements reçus ici. À côté des théories classiques de l'attachement, des tests psychologiques, des grands théoriciens classiques comme Freud, Jung, Bergeret, Winnicott, nous avons connu Françoise Dolto, qui était une référence pour ceux qui s'intéressaient à la psychanalyse d'enfants. C'est pour cette raison que Les cas Dominique a été mon premier livre de psychanalyse que j'ai lu en français à l'époque où je mettais en place mon projet de venir en France pour poursuivre une formation analytique après la conclusion de mon cursus universitaire au Brésil. Son ouvrage a été une référence de la psychanalyse d'enfants pour moi dès les débuts de ma pratique, lorsque je commençais à recevoir des enfants et leurs parents dans la clinique école de l'université. En relation aux autres auteurs classiques que nous avons pu connaître à cette période, Dolto venait apporter un regard différent, beaucoup moins centré sur la notion de normes ainsi que sur les phases du développement de l'enfant. Ce qui m'a beaucoup apporté dans mon écoute avec des enfants, c'est cette façon toute particulière qu'avait Dolto d'aller à la rencontre de l'enfant, de lui parler dans un langage qui lui était accessible. Ça, pour une jeune étudiante, c'était quelque chose de très important. Elle nous montrait ainsi qu'il n'existe pas une normalisation, une façon type de travailler, et que l'enfant peut dire par ses représentations, le modélage, les dessins, les histoires, ce qui fait problème pour lui. Dolto, reprenant l'idée de l'enfant comme symptôme des parents, affirmait que l'enfant peut être actif par rapport à son symptôme, que les symptômes, c'est ce que l'enfant choisit comme réaction face à ce qu'on lui fait vivre. Ceci m'a permis d'avoir une approche nouvelle dans mes premières thérapies d'enfants. Cette conception du symptôme en tant qu'expression, production et langage m'a guidée dans ma clinique avec des enfants issus d'une population en très grande précarité psychique et sociale, et donc très carencés ainsi qu'en grande difficulté pour exprimer leur mal-être. Ma deuxième rencontre avec l'œuvre de Dolto fut dans les séminaires psychanalytiques et supervision en France. Ici, j'ai rencontré ceux qui l'avaient écouté et qui avaient été formés en partageant sa pratique. J'ai découvert également son charisme ainsi que l'impact de ses intuitions cliniques déroutantes en percevant une passion toute particulière chez ceux qui parlaient de ses enseignements. C'était une autre Dolto à ce moment-là. Cette rencontre a été fondamentale pour le début de ma pratique et l'est encore aujourd'hui dans mon travail en maternité avec des femmes, des mères en pré- et post-natal ainsi que leurs bébés. J'ai choisi d'évoquer aujourd'hui trois apports de Dolto qui me servent d'outils de travail pour ma clinique quotidienne. Tout d'abord, il s'agit de la mise en évidence des capacités du bébé. Ces bébés d'emblée actifs et en interaction dès les premières heures de vie, ces nourrissons pré-sujets dont elle parlait dans un de ses livres. Lors de leur séjour en maternité, les femmes évoquent souvent, avec étonnement et tristesse, le fait de ne pas se sentir d'emblée mère de leur nouveau-né, comme si ce processus était acquis dès la venue de l'enfant au monde. Elles sont parfois dénarcisées par cette rencontre, étonnée, comme le dit Balzac, de ne pas se sentir plus mère que cela. Une rencontre tant attendue, mais qui, comme nous le savons, ne se fait pas immédiatement et demande un temps pour la mise en place du lien. Ces femmes sont ainsi dans l'attente d'un geste de nouveau-né, d'une réponse dans les échanges. C'est ce que Dolto évoquait lorsqu'elle affirmait que c'est d'abord l'enfant qui la fait mère. Lorsqu'on connaît le bébé de Dolto, Ce nouveau-né qui, dès sa naissance, peut entrer dans la communication langagière, il est possible de mieux accueillir ses désarrois maternels et inviter la mère à s'adresser à son bébé qui a déjà en lui des potentialités d'échanger avec l'autre. Cette rencontre, à 3 ou à 4, peut permettre aux mères de se servir dans un premier temps de notre regard, de notre parole adressée à l'enfant, de notre causerie, pour entrer en relation avec l'enfant. L'effet d'échanger avec leur bébé en présence d'un tiers montre aux mères que l'enfant est très tôt dans un désir d'échange, dans une intersubjectivité. Les deuxièmes apports de Dolto dont je me sers fréquemment dans ma clinique concernent la difficulté du sévrage pour les mères et les raisons qui la sous-tendent. En effet, ce nourrisson être du langage dont nous parlait Dolto, ce bébé qui boit les paroles de ceux qui sont prêts à lui parler, peut se retrouver en défaut de communication verbale, limité à une relation centrée sur le corps à corps. Il vient alors prendre place, pour reprendre le terme de Dolto, d'un enfant fétiche, un enfant phallus, consolateur des désirs et frustrations maternelles. C'est le cas, par exemple, de femmes qu'on rencontre à la maternité qui sont dans une importante détresse psychique parce que abandonnées par leur partenaire au moment où elles découvrent qu'elles sont enceintes. L'érotisation de l'investissement du bébé résulte alors du déplacement de la relation érotisée avec leur partenaire, désormais absent, sur l'enfant. À ce propos, une jeune mère me disait « C'est grâce à mon enfant que j'ai pu oublier mon ex-copain. Je ne ressens plus besoin d'être avec lui, mon bébé est là, et c'est ça qui compte. » La femme mère dont nous parlait Dolto peut se retrouver dans une position régressive où elle ne peut qu'être mère de son enfant, faute de pouvoir investir dans une relation libidinale adulte, et risque d'orienter la sexualité vers le seul rôle de nourrice. Ces femmes peuvent aussi avoir des difficultés à sévrer leur nourrisson. Il n'est pas rare de voir en maternité des mères décider à ne pas allaiter leur deuxième enfant suite à une grande difficulté de sévrage pour leur aîné. Elles ne veulent plus allaiter ou parlent dans l'allaitement mixte pour ne plus se sentir esclaves de leur propre bébé, comme si la difficulté venait de l'autre. On sait, après Dolto, que les sévrages ratés, cette castration du bébé qu'elle nomme castration orale, signifie aussi une castration pour la mère. Un sévrage réussi, nous disait Dolto, implique que cette mère soit capable d'offrir autre chose au bébé, un autre type de communication en dehors du contact avec son corps, qu'elle puisse, elle aussi, accepter ce sévrage érotique et la relation de l'enfant avec autrui. Cet apport me paraît fondamental pour notre écoute car elle montre bien comment cette question souvent banalisée et considérée comme une simple question de nourrissage est en réalité étroitement intriquée avec l'état psychique maternel. C'est une question qui nous aide aussi pour travailler avec les équipes en maternité. Le troisième apport concerne cette approche très intéressante auprès des mères des enfants qu'elle a rencontrés. Dolto n'était jamais dans un jugement à l'égard des mères, même les plus perverses, les plus folles. Pour elle, si on juge la mère, si on la classifie comme mauvaise ou bonne, cela peut également porter des préjudices pour l'enfant. À des commentaires tels que « cette mère n'est pas une bonne mère », Dolto répondait en contestant et elle affirmait qu'aucune mère ne peut être qualifiée de bonne ou mauvaise. Elle affirmait, je la cite, « elle est la mère ». Donc, c'est elle en qui cet être humain s'est enraciné valablement, puisqu'il n'est pas mort et qu'il a survécu à cette soi-disant mauvaise mère. Elle faisait ainsi preuve d'indulgence, voire de bienveillance à l'égard de ses mères en souffrance. Il me semble important dans notre contexte clinique actuel de ne pas perdre de vue l'importance fondamentale de cet apport. En effet, au nom d'une aide portée aux mères démunies et en situation de risque, nous assistons aujourd'hui à une tendance vers leur assujettissement, leur infantilisation, par un jugement de leur façon de faire. Il semble qu'il y aurait en ce moment des mauvaises mères un peu partout. La périnatalité devient maintenant un sujet d'intérêt dans le champ de la prévention, dans le but de proposer un accompagnement de plus en plus spécialisé aux mères, notamment aux mères dites en difficulté. J'ai pu constater, par exemple, dans ma pratique, auprès des femmes enceintes une tendance à évaluer leurs capacités. Dans cette optique, les mères sont souvent mises en question par rapport à leur rôle, et si elles vivent seules, elles sont plus que jamais ciblées et désignées comme vulnérables. Il semble qu'au nom d'une certaine prévention, voire au nom d'un idéal de société, s'impose une nécessité d'éduquer les mères, de leur imposer des soins selon un modèle prédéterminé et donc selon un idéal. À son époque, Dolto dénonçait déjà le risque de déloger les mères de leur place et de leur rôle auprès des enfants. Elle nous mettait en garde contre les dangers d'une inspiration par une demande du social et du politique, et nous parlait d'une violence adaptatrice à l'égard des enfants dans une demande de bien-être social. Nous voyons qu'avec la création de la Maison Verte, elle tentait déjà d'extraire des objectifs politiques des soins pour mettre en avant l'implication du sujet et de son désir. En tentant de dessiner les grandes lignes de l'apport de l'œuvre de Dolto dans ma clinique quotidienne, j'ai été amenée à réfléchir sur la nature de l'héritage d'un auteur en psychanalyse aussi singulier qu'elle pour la pratique clinique. Il me semble que loin de livrer un corpus de connaissances ou de recettes théoriques, Dolto nous a transmis une invitation à l'ouverture d'esprit et des outils que je définirais comme des conditions pour mettre en mouvement notre pensée. Merci de votre attention.
Merci Monica. Alors maintenant, je passe la parole à Sarah Stern, qui, comme je vous le disais, est pédopsychiatre, qui exerce à l'heure actuelle, elle le dit elle-même, comme psychiatre périnatale, et qui dirige l'unité de psychopathologie périnatale à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Alors, Monica nous a un peu dit l'importance de Dolto dans les questions vraiment de la société aujourd'hui, parce que finalement cette normatisation à être mère va avec toutes les autres normatisations imposées. Et toi, Sarah, dans ta formation, la rencontre avec Dolto ?
Alors, c'est le contraire de... C'est le contraire de Monica. Moi, je n'ai jamais rencontré Dolto dans mes études. Mais d'une certaine manière, je dirais que j'ai eu la chance... c'était d'une certaine manière une chance, parce que je crois que c'est une rencontre plus vive, quoi, plus saillante, dans la mesure où c'était vraiment très différent de ce que j'avais pu apprendre jusque-là. Moi, j'ai lu Dolto après la fin de ma formation. Donc, j'avais appris par ma formation de médecin, puis de psychiatre d'enfants et d'adultes, à observer, à repérer les symptômes, les regrouper en syndromes, établir une anamnèse, une psychogénèse, à partir d'un interrogatoire précis, reprenant les étapes du développement de l'enfant. Et puis, j'ai commencé une activité dans un CMP enfant, après plusieurs années de travail avec des adolescents. J'ai été extrêmement surprise, désarçonnée même, parce que les enfants disaient, ils ne me parlaient que de sexe et de mort. Et donc j'étais dans une certaine perplexité à ce moment-là. Et donc c'est dans ce contexte, je ne savais pas trop quoi faire de tous ces dires des enfants, que j'ai engagé la lecture des écrits de Françoise Dolto, encouragée par quelques heureuses rencontres qui avaient directement travaillé avec elle. L'objectif est donc là de témoigner de l'incidence de cette lecture accompagnée sur ma pratique clinique. Pour le jeune psychiatre que j'étais, c'était d'abord la fraîcheur d'une lecture qui ne s'embarrasse pas d'un diagnostic et fait pourtant un repérage précis de là où se trouve un enfant, de son temps de fabrication psychique, de son rapport à l'autre maternel, et qui, partant de là, permet de s'adresser à l'enfant dans un langage qui renoue un dialogue. Un langage qui va le chercher là où il s'est arrêté, parfois même retiré. Pour autant qu'un échange vrai se noue, Françoise Dolto ne se laissait pas impressionner par des troubles anciens, fixés, ou par la massivité des symptômes. Elle gageait sur la potentialité dynamique du désir pour mobiliser les investissements pulsionnels de l'enfant là où il s'était fixé et symboliser les étapes qui n'avaient pu l'être afin de lui permettre de cheminer à nouveau dans ce qu'elle appelait l'allant devenant dans le génie de son sexe. La lecture savoureuse des exemples pris dans sa clinique, Ces fulgurances, ces intuitions, ces raccourcis ne doivent pas masquer une théorie précise du développement et de ses avatars. J'ai choisi pour ce court exposé d'illustrer en quelques points le tranchant qu'a eu sur ma pratique la lecture de Françoise Dolto. Donc un premier point que j'intitulerai d'une manière un petit peu provocante quand on travaille avec le transfert et pas avec l'intersubjectivité. Donc j'intitulerai ce premier point « Une éthique de la rencontre ». Tout enfant, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de développement, qu'il soit handicapé ou qu'il ne le soit pas, quelles que soient les modalités d'expression verbale ou pas, s'il a à advenir par la relation à l'autre pour devenir une personne, est sujet du désir dès sa conception. Il n'est plus possible dès lors de ne pas s'adresser à l'enfant, de ne pas lui signifier le sens de l'entretien pour lui, de ne pas entendre à partir de ce qu'il manifeste son désir propre. Reconnaître et signifier en langage le sujet désirant en l'enfant, là où il en est, parfois retiré, évitant toute relation, en présence de parents eux-mêmes coupés depuis plusieurs années de toute communication vraie avec leur enfant, donnait une toute autre perspective au travail. C'était accepter de se laisser guider par l'enfant, ses réactions, ses interventions. Le deuxième point, que j'appellerai la part du prénatal, et qui découle directement de ce premier point. Voilà. Donc c'est si j'avais jusque-là toujours documenté dans mes dossiers cette part de l'histoire, cherchant une origine des troubles, je n'avais souvent, après quelques séances, aucun souvenir marquant d'un repérage pourtant précis des différentes étapes du développement. Aujourd'hui, le contexte de la conception, la nature du lien avec le père, le vécu de la grossesse, les événements survenus pendant la gestation, la manière dont est parlé l'accouchement, sont non seulement des moments majeurs de l'histoire, renseignés avec bien plus d'intérêt, mais je ne les oublie plus. Ils sont le premier chapitre. Ils auraient presque tendance à peser plus lourd dans ma représentation de ce qui va constituer le narcissisme fondamental de l'enfant et son inconscient, voilà, que ce qui vient après. Plus possible, après Dolto, de noter sur la première page du dossier ce que j'ai longtemps fait, grossesse, accouchement, RAS. Troisième point, que je nommerai tout est langage, avec tout ce qui a été dit déjà sur ce tout est langage. Donc, on l'a déjà dit, l'enfant est toujours et déjà dans le symbolique, dès sa conception où s'origine le sujet du désir. Son désir de communiquer avec un autre sujet, inhérent pour Dolto à la nature de ses désirs, va emprunter les voies sensoriellement investies, l'oralité, l'analité, etc. L'enfant va donc utiliser ce qui est investi libidinalement pour exprimer son désir, susauter à défaut de converser avec sa mère. Ainsi, les manifestations corporelles, les troubles fonctionnels du nourrisson sont interprétés comme langage de l'enfant adressé à la mère et sont en reste d'élaboration de paroles. Qu'est-ce qui, pour l'enfant, a pu faire rupture, altérer son narcissisme, au point parfois même d'entraver durablement son développement ? Pas de corps qui ne soit dépris de la relation à l'autre. Même le morcellement du schizophrène est, pour Françoise Dolto, rapporté aux expériences premières de la mastication et de la défécation. Cela renvoie à une conception du corps jamais réifiée, où la notion d'image inconsciente du corps, qui nous l'histoire relationnelle du sujet avec ses perceptions sensorielles et sa libido permet une relecture non seulement des troubles fonctionnels, mais de nombre de symptômes chez l'enfant. Ainsi, par exemple, l'encoprésie n'est plus un symptôme nécessairement très grave qui fait suspecter une psychose, mais peut-être le biais que prend l'enfant pour convoquer sa mère dans une situation de danger. Il cherche à retrouver le dernier contexte de sécurité investi libidinalement dans la relation avec sa mère. Son symptôme nous guide, nous donne une indication sur la période sur laquelle il nous faut revenir. De la même manière, une fixation à un stade du développement, une régression même temporaire le temps d'une séance, permettent de ramener sur le devant de la scène des événements qui n'ont pu jusque-là être élaborés par l'enfant. Le quatrième point que j'ai intitulé « L'adresse à l'enfant et le pouvoir de la parole », voilà, c'est peut-être une des choses qui m'a le plus marquée. Voilà. Quand Dolto met en mots ce que représente l'enfant en jouant ou en dessinant, elle le fait en prenant en compte là où il en est de ses investissements pulsionnels. Ainsi, elle peut dire à une petite fille ayant régressé à un stade très précoce ayant perdu tout investissement de ses membres supérieurs, de prendre avec sa bouche de main l'objet qu'elle lui tendait et, ce faisant, lui restituer l'usage de ses membres supérieurs. Je cite Dolto, lui mettant par la parole une bouche dans sa main. Parce que Françoise Dolto nomme les choses comme l'enfant les perçoit. La parole vient au plus près de l'émoi ressenti par l'enfant, et la parole a vraiment alors un immense pouvoir de symbolisation. L'autre point est qu'il n'y a, rien qui ne peut être parlé, je ne peux pas le dire. Pas de tabou. Elle qui en a si peu, qu'on rit souvent de ses interventions, de son franc-parler. Que l'enfant ait droit à la vérité de son histoire, quelle qu'elle soit, m'a longtemps laissée rêveuse. J'avais moi-même beaucoup d'appréhension face à certains récits entendus, me demandant ce qu'un sujet pourrait bien en faire. Enfin, voilà le cinquième point, que j'ai nommé très simplement des repères pour la psychose chez l'enfant. Donc l'image inconsciente du corps croisée au schéma corporel et les castrations symboligènes permettent de rendre compte de la clinique si hétérogène et déroutante des psychoses chez l'enfant. Concernant les différentes étapes du développement, quels sont les moments où l'adulte tutélaire a échoué à donner à l'enfant la castration dont il aurait relevé, et l'enfant est-il resté dans une relation dyadique ? Les différents moments où une castration n'a pu être donnée entraînent un trouble de l'image du corps, et malgré un schéma corporel normal, l'enfant ne peut avoir un usage de son corps en lien avec son âge. La cassure dans le développement laisse-t-elle l'enfant assujetti au narcissisme parental et il ne peut assumer une image unifiée de lui ? Ou la cassure intervient-elle après, l'enfant ayant pu assumer une image de lui comme personne, mais ne pouvant valoriser son sexe ? Se représenter l'image inconsciente du corps donne des repères pour cheminer. Tant qu'il fait corps avec la mère, alors peut-être vaut-il mieux les recevoir ensemble, l'enfant et sa mère, jusqu'à ce que les choses évoluent. En conclusion, après ce survol express, j'aurais encore envie d'évoquer deux choses que m'ont enseigné les écrits de Françoise Dolto et quelques-uns de ses passeurs. C'est l'incroyable respect qu'elle avait de ses patients et le fait de ne jamais craindre la vérité, aussi sidérante, parfois aussi violente soit-elle. Voilà, je m'arrête là.
Merci Sarah. Ah oui, ça j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse plus mettre RAS sur les dossiers. Hein. Parce que même quand on vous dit tout s'est bien passé, mais comment ça bien ? Enfin, c'est intéressant aussi. Toutes les histoires d'enfants sont tout à fait importantes. Alors Georgi, venu du monde littéraire plus, ou parle-nous un peu des femmes.
J'en parlerai, mais pas tout de suite.
Ah bon ?
Je voudrais d'abord remercier Caroline Eliachef et Catherine Vanier de cette invitation. C'est très...
Tu parles dans le micro.
J'essaye de parler dans le micro. C'est très difficile de dire qu'est-ce que vous avez appris de quelqu'un. Je vais essayer de le faire. Néanmoins, c'est un exercice qui met un certain défi. Donc, merci pour cette invitation. Et je voudrais donc commencer non pas par parler de femmes, mais plutôt attirer votre attention sur un paradoxe qui a été souvent pointé ici depuis le début des travaux du colloque, à savoir que Françoise Dolto se trouve aujourd'hui dans une notoriété qui précède et dépasse de loin la connaissance réelle qu'on a de son œuvre. La notoriété peut être, à sa manière, fait obstacle, tout comme les logiques du deuil qui traversent les familles d'esprit et de cœur, à ce que cette œuvre soit véritablement ouverte à la possibilité de se transmettre. Mais le drame de la transmission, justement, me semble-t-il, c'est précisément qu'elle peut avoir lieu indépendamment de toute subjectivité et de toute intentionnalité concrète. Je donnerai quelques exemples. Un exemple, la prolifération actuelle par centaines des lieux d'accueil et des temps d'accueil au sein des PMI à l'initiative de pouvoirs publics, qui se servent d'une invention, en faisant la plupart du temps l'économie de toute référence à Dolto et à la psychanalyse, et à ce concept inaugural et original qu'est le lieu d'accueil de type maison verte. Je voulais juste le mentionner au passage. Dans le travail de formation que nous faisons à l'IRAEC auprès des personnels de PMI, nous essayons précisément de faire entendre quelque chose des principes éthiques qui présidèrent à l'ouverture des premiers lieux d'accueil et de faire entendre le rôle fondamental de la référence psychanalytique notamment. Voilà. L'autre exemple que je voulais donner, c'est l'inflation d'un certain discours psychologisant, d'une grande violence d'objectivation que nous tiennent parfois certains parents qui amènent leurs enfants en consultation et qui cherchent, semble-t-il, la complicité de l'analyste chez qui ils supposent une certaine dolto qui pourrait comprendre ce que les parents disent à ce moment-là, me semble-t-il. Je m'approche. Troisième exemple que je voulais donner, c'est le contresens flagrant qu'on fait aujourd'hui encore en public, tout récemment, ça a été dit tout à l'heure, de faire le grief à Dolto d'avoir promu l'enfant roi, cet enfant qui dénonce plutôt l'immaturité des adultes, qui s'en trouve débordé et qui porte plainte. Que cela puisse se produire alors que Françoise Dolto est si peu enseignée, il y a lieu de concevoir cela comme ce que je vous propose d'appeler comme ça, comme des exemples de transmission sauvage. Et qu'il s'agirait non pas simplement de déplorer, mais d'essayer de comprendre un petit peu leur logique, n'est-ce pas ? Ces effets de mirage de savoir, ces effets de mirage médiatique, qui sont sans doute dans une certaine mesure inévitables. Dans les milieux analytiques, on est souvent grinçant à l'endroit de l'université, n'est-ce pas ? Être universitaire et être analyste, comme si ce n'était pas bien d'être universitaire. Mais je pense que l'absence de Dolto à l'université, qui est un fait, au cours de mon cursus d'études, je n'ai pas entendu un seul TD, ni une seule conférence, me semble-t-il, sur Dolto, ou alors ça devait être très très rare, ça m'a échappé. Je pense que cette absence de Dolto à l'université ne contribue pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à ce que les voies de la transmission de son œuvre soient un tant soit peu structurées. Voilà, ça c'était en marge de cette promesse, fou là là, très audacieuse que j'avais faite d'essayer de dire quelque chose du féminin dans l'œuvre de Françoise Dolto. Donc vous allez voir que ma stratégie de défense par rapport à mon engagement, c'est de remettre ce sujet de plus en plus à plus tard. Donc, je vais donc vous dire un petit peu dans la modalité du témoignage qui a été proposé donc par Catherine et Caroline à cette deuxième génération que nous sommes. Je trouve que c'est formidable ce métier parce que tout à coup on peut être jeune, n'est-ce pas ? Alors qu'on n'y pensait plus. Alors, voilà. Donc j'ai commencé, contrairement à la tendance générale, ma pratique analytique, non pas avec un patient adulte, de préférence névrose classique allongeable à trois fois par semaine, mais avec des enfants. Par un hasard bienfaisant, j'ai eu plusieurs années de formation sous convention de stage au CMP d'Issy-les-Moulineaux, ça a été dit, dirigé par Caroline Eliachev, où j'ai pu recevoir un grand nombre d'enfants amenés par leurs parents, et d'une certaine manière, là, j'ai pu faire peut-être la rencontre de l'esprit de Françoise Dolto, qui imprégnait le travail dans ce centre, aussi bien dans le style de la supervision qui était proposée que dans l'organisation globale de la collaboration entre les différentes forces vives qui étaient là dans ce CMP. La lecture vint à contre-temps, un peu plus tard, lorsque je trouvais énoncé noir sur blanc les principes que j'avais repérés au CMP d'Issy-les-Moulineaux et les choses que j'ai pu constituer pour moi comme repères fondamentaux de ma pratique, lorsque je les voyais écrits dans Françoise Dolto à tel ou tel endroit, j'avais l'impression de reconnaître quelque chose. Je voudrais citer un passage dont j'imagine qu'il serait utile de le faire apprendre par cœur à quiconque se propose de faire thérapeute d'enfants. Et il résume à peu près il les condense à l'extrême, ce que sont ces repères avec lesquels j'ai appris à travailler. Voici. Je cite Françoise Dolto. Une personne qui exige de l'enfant qu'il parle alors qu'il ne la connaît pas et qu'il est encore engagé dans la primauté de sa relation avec ses parents. Cette personne est ressentie comme violeuse, raptrice à l'égard du désir de l'enfant et de paroles qu'il n'a pas à lui donner. Elle le serait plus encore si par séduction elle voulait jouer avec l'enfant, ou si, sans qu'il soit conscient du métier de l'adulte chez qui ses parents le conduisent, elle se comportait comme ayant des droits sur sa personne, sous prétexte que les parents ont le désir qu'il entre en relation avec elle, qui lui est inconnue, et dont il n'a pas compris comment ni en quoi elle est au service de sa propre personne. Voilà. Donc, lorsque je commençais à lire Dolto, pour étayer et élaborer mes repères cliniques dans le travail avec les enfants, je ne soupçonnais pas à quel point ces textes pouvaient m'apporter précisément sur le terrain de mon travail avec les adultes. Avec les mères et les pères des enfants qui viennent en consultation au CMPP ou à l'IRAEC, où je pratique l'accueil dans le club parents-enfants, mais aussi dans le cadre de mon cabinet, du travail analytique avec des adultes engagés dans une démarche, comme on dit, personnelle. Il y a quelques années, je sous-louais le cabinet d'une collègue pour héberger ma pratique commençante, et c'est dans sa bibliothèque à elle que j'ai commencé à découvrir d'autres ouvrages que l'image inconsciente du corps qui m'avait servi d'introduction avant de commencer à les acheter un par un. Donc je me suis mis à lire Dolto entre deux séances ou à prolonger ma matinée ou mon après-midi de travail en feuilletant des livres, et je les cite dans le désordre: La cause des enfants, Psychanalyse et pédiatrie, Le féminin, Le sentiment de soi, Sexualité féminine, Les images, les mots, le corps, ces remarquables entretiens avec Jean-Pierre Winter dont j'ai pu voir la version filmée récemment et que je vous recommande, qui est remarquable. Ce n'est donc qu'une toute petite partie de ce qu'il y a à lire, et je n'ai pas fait ce qu'on appelle une lecture systématique. Je fréquente ces livres un peu comme un promeneur prend l'habitude d'aller au bois de Vincennes, ou un peu comme Montaigne disait qu'il fréquentait Plutarque, ouvrant à telle page, presque au hasard, lisant un peu, et en revenant toujours avec quelque chose à se mettre sous la dent. Je cite « Je ne puis l'ouvrir sans en retirer cuisse ou aile ». Il y a en effet une telle richesse et une telle densité, ça a été dit par Sarah Stern, à quasiment chaque page, que même la lecture d'un seul paragraphe de Dolto peut avoir l'effet d'ouvrir une méditation précise, de relancer telle question, d'apporter telle manière totalement inattendue, de concevoir une question clinique, n'est-ce pas ? Ou de résoudre parfois une impasse dans une cure tout à coup, après coup, ou d'éclairer après coup quelque chose sur quoi on s'était interrogé. Parfois, la lecture en remarque certaines phrases qui dépassent en quelque sorte comme des fleurs plus grandes le niveau du texte, qui prennent des valeurs d'aphorismes. Je vous en ai choisi quelques-unes. Par exemple, l'angoisse de castration vient de ce que nous morcelons pour avaler. L'angoisse de castration vient de ce que nous morcelons pour avaler. Je ne commente pas, on pourrait faire un séminaire sur cette phrase. Ou bien, la perversion des parents, c'est de prendre des besoins pour des désirs et des désirs pour des besoins. Parfois me frappe la valeur légèrement différente que peuvent prendre des mots très ordinaires dans le style de Dolto, comme par exemple le mot « conversation ». Lorsqu'on l'entend par exemple dire à une mère qui se plaint que son enfant de 3 mois vomit presque chaque fois qu'elle lui donne la tétée. Peut-être qu'il a envie de conversation, dit Dolto. Puis ce même mot conversation peut vous apparaître à des endroits différents de son texte. Par exemple, telle remarque dans tel passage sur la masturbation où il est noté qu'un fort attachement à cette pratique peut conduire à méconnaître les plaisirs de la conversation sexuelle. Voilà. Et en guise de, comment dire, de dissémination de ce motif, je me souviens à l'instant que « Solitude » est écrit sous forme de conversation. Donc j'ai été tout particulièrement impressionné par « Sexualité féminine », j'y viens, que je me plais à considérer comme une sorte de tresse entre d'un côté un essai sur la structuration précoce de l'enfant, pré-œdipienne, le tissage du narcissisme primaire, préparant justement la possibilité de l'entrée dans l'Œdipe, et donc de l'élaboration symbolique de la différence des sexes, et d'un autre côté, ce que j'ose appeler, c'est une hypothèse de travail, un essai d'érotologie psychanalytique qui explore les conditions de possibilité d'un amour permettant la pleine réalisation de la fonction sexuelle, un amour génital non contaminé par des significations incestueuses et authentiquement hospitalier à la procréation et à l'arrivée des enfants. Dit comme ça, ça peut prêter à sourire, j'imagine, comme s'il s'agissait d'un rêve utopique, d'une sorte d'angélisme ou de je ne sais quoi d'autre. Peut-être. Mais c'est dans cette lecture que l'on peut apprendre, je crois, à discerner ce qu'il y aurait à entendre, notamment à l'égard du féminin, dans l'horizon clinique d'un analyste lorsqu'une mère ne peut vous parler, par exemple, d'elle qu'en parlant de sa fille. Lorsque telle femme vous parle de l'impasse insupportable qu'est devenue sa vie de couple, qu'elle ne maintient que pour les enfants. Ou lorsque telle autre avoue ses violences compulsives qui la poussent à rouer de coups son fils de 4 ans sans savoir pourquoi et se croyant dangereuse pour son fils. Ou telle autre qui se dit insensible, coupée de toute émotion véritable, sur le point de se faire avorter pour la 3e fois. C'est ce qu'il y aurait à entendre, me semble-t-il, dans le déploiement du transfert, c'est précisément l'avoir été enfant de cette femme-là. La modalité toujours plurielle et toujours singulière selon laquelle a pu s'opérer la reconnaissance symbolique de son existence et de son désir à tous les moments cruciaux de sa structuration, de la structuration de son être sexué justement, c'est-à-dire comment elle aura été désirée, anticipée, reçue, nommée, regardée, nourrie, quelle valeur aura-t-elle eu pour ceux qui l'ont mise au monde, notamment dans son existence sexuée. Positivement en tant que fille, comment a-t-elle découvert la singularité de son corps, de ses sensations physiques? Comment ont été accueillies les manifestations de son désir incestueux, structurant? De quelle manière ont-elles été symbolisées? Quelles incidences, sublimation, refoulement névrotique ou perversion ont eu ces symbolisations dans le processus de sa réalisation vers la féminité et la maternité? Sous l'égide de quel renoncement et de quelles promesses et de quelles menaces s'est ouvert l'horizon de son existence en tant que fille et femme? Telles sont, à gros traits, les boussoles que j'ai puisées dans Françoise Dolto qui me permettent de me repérer dans la clinique des adultes femmes et mères dont le déploiement, parfois dans l'analyse, peut prendre un très long temps. Mais au fond, ce pourquoi le travail de Françoise Dolto sur le féminin m'impressionne davantage que ce pourquoi je l'utilise en bricolant, c'est ce sentiment que j'ai en lisant que, plus que dans n'importe quel de ses ouvrages théoriques, plus que dans n'importe quel ouvrage de psychanalyse qu'il m'est arrivé d'ouvrir, que ce soit écrit par un homme ou une femme, que c'est une femme très accomplie qui parle. Et que, comme dit Montaigne, se donne à connaître autant que les choses dont elle parle. Et que cet horizon idéal d'accomplissement de la fille, allant devenant dans le génie de son sexe, par-delà la pauvreté des repères cliniques strictement freudiens du Penny Snide qui présuppose une entrée nécessairement dépressive de la fille dans la sexuation, c'est peut-être utopique comme promesse théorique d'un amour autre, mais c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu au moins une fois dans la vie de cette femme-là. Quant à l'énigme de la féminité, je cite, elle rejoint le fait que moi, Françoise, je suis pour moi, Françoise, une énigme. Je suis très reconnaissante aux gens qui m'aiment, parce que grâce à ça, je peux m'aimer bien. Mais j'ignore tout à fait qui je suis. C'est pour ça que je ne peux pas te répondre, dit-elle à Jean-Pierre Winter, parce que je ne sais pas du tout où est ma féminité à moi. Je ne sais pas. Il y a une impossibilité à en parler. Je vous laisse finir vous-même la lecture de ce passage qui se trouve page 170 des entretiens avec Jean-Pierre Winter et je vous remercie de votre attention.